au chapitre 20. N'est-ce pas un chapitre merveilleux? Je suis vraiment content du temps en première partie qu'on lise la parole ensemble puis qu'on prise la parole ensemble. Je fais exprès. Moi, j'ai toujours été taquin. Ça vient de... C'est de famille. Tu connais mon oncle André, il était le même. Ah ouais, taquin, taclaude. Puis parce que quand je sais que quelque chose va faire réagir quelqu'un, j'aime ça. Fait que merci d'avoir mordu à l'hameçon, Sylvie. Puis l'autre Sylvie, les deux Sylvie, là, ils aiment pas ça, les erreurs de français, puis les remarques. Fait que des fois, je fais pas exprès, mais des fois, je fais exprès pour en faire. Mais je dirais peut-être que plus souvent qu'autrement, j'ai fait involontairement. Je suis pas un grand orateur, je suis pas Tertullien, disons. Mais à l'écouter parler de Tertullien, j'aime mieux pas être comme lui, là. Très excellent Festus, par tes... c'était-tu flatteur, par à peu près? Je viens de le lire, ça fait pas longtemps, là. Ceux qui ont lu, c'est dans Actes 22, 23, là, dans ce coin-là. Disons que... ça me dérange pas. Deux chroniques au chapitre 20. On a lu le chapitre au complet, puis on va lire beaucoup de versets à travers... les versets clés, vraiment... à travers le message, mais là, j'aimerais qu'on lise simplement les versets 19 à 21, qui est vraiment au cœur du passage et de ce qui se passait à ce moment-là. Les Lévites d'entre les fils des Kéhatites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit « Écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Vous serez affermis, confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » On te remercie, Seigneur, de ce que tu nous donnes ce temps, ce matin, dans ta parole, la parole vivante et efficace. Merci, Seigneur, que tu es le Dieu vivant, que tu t'es révélé à nous, que ce passage nous révèle qui tu es. Et Seigneur, on veut ensemble te découvrir et on veut voir ces vérités à la lumière de ce que tu as fait de nous en Jésus-Christ. Donc, ouvre nos yeux, nos cœurs, tout notre être, Seigneur, à ce que tu as pour nous aujourd'hui. Ce matin, ici réunis, en ton nom, pour ta gloire, et on se remet, Seigneur, totalement entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. Ici, on voit vraiment, on peut dire, c'est le titre du message, la célébration hâtive de la victoire. Déjà, il célébrait la victoire. Il était dans la louange, il célébrait l'Éternel, puis il n'avait même pas encore touché à une épée, puis rencontré l'ennemi face à face. Mais déjà, ils célébraient la victoire. Et je vois dans ça, vraiment, cette célébration hâtive de la victoire, et dans ce chapitre ici, une illustration puissante qu'avant même et au-delà de l'expérience de la réalité de la victoire, la réalité du Dieu de victoire est ce qui les amenait à l'adorer comme ça. Il n'y avait pas besoin d'expérimenter la victoire en tant que telle. Le fait qu'ils connaissaient et qu'ils avaient les yeux fixés sur le Dieu de la victoire, c'est ce qui les amenait comme ça à célébrer déjà à l'avance. La présence de Dieu, la personne de Dieu était plus forte que l'œuvre de Dieu qui allait s'accomplir. Mais pour eux, la personne de Dieu, c'était suffisant. Comprenez-vous? Qu'on voit le Dieu de victoire avant la victoire, c'est suffisant, n'est-ce pas? Parce que la victoire, on va finir par la voir. Mais on ne la voit pas tout le temps. Puis des fois, même, on trouve que, mais si on est saisi par la réalité du Dieu de la victoire, ben on va le louer pour cette victoire qu'effectivement, il va amener en son temps, à sa façon. Et j'aimerais aussi amener, comme j'aime bien l'amener dans les passages de l'Ancien Testament, comme on a en ce moment, qu'on voit ici une image de Jésus. Jésus, notre victoire. Celui qui nous a acquis la victoire et par lequel nous combattons, et non pas pour obtenir la victoire, mais de notre position de victoire. Nous avons la victoire. Christ est notre victoire. Il nous a donné cette victoire. Donc, on ne bat pas pour essayer d'obtenir une victoire. On se bat comme étant dans une position victorieuse. Et remarquez à ce sujet-là, le verset 15. Et le prophète qui s'est élevé, Jéchaël, dit « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Et de notre côté de la croix, à la lumière de la nouvelle alliance, de ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ, ben, non seulement Dieu est avec nous, mais Dieu est en nous. Et il est notre victoire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et c'est pour ça qu'on combat à la manière ici, comme au verset 19, les Lévites d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Corites se levant pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Notre combat, c'est pas un combat de défaitiste, c'est un combat de victorieux. On combat à cette façon, célébrant la victoire. C'est pour ça que ça dit dans la Bible, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant au Seigneur en vertu de la grâce. Est-ce que quelqu'un qui chante et qui célèbre comme ça, c'est quelqu'un qui est vaincu puis que il a à se s'abattre? Puis, non, c'est quelqu'un qui se réjouit de ce qu'il a. Il célèbre le Dieu qui l'a racheté, qui a vaincu. Et ce que j'aime aussi dans le texte, c'est qu'on voit cette victoire-là se concrétiser, ça nous dit au verset 21. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma d'entre les chants qui, revêtus d'ornements sacrés, marchant devant l'armée, célébrait l'Éternel et disait « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Et ça dit « Au moment où on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade. » Sont allés avec l'arme de la louange, avec l'arme de l'adoration. Et au moment où est-ce que ça s'est arrivé, qu'ils étaient un ensemble à célébrer l'Éternel, Dieu leur a donné cette victoire. Qu'il avait acquise, mais qu'il avait promise, mais leur a donné au moment où est-ce qu'ils étaient ensemble, unis dans cette victoire. Et là-dessus, j'ai une application tellement importante pour nous, croyants du Nouveau Testament, qui avons tous les bénéfices de l'œuvre du calvaire accomplie en Jésus-Christ. Non seulement que Christ est mort pour nous, mais nous sommes morts avec lui. Et on va voir ça dans le message. Mais qu'est-ce que ça nous dit dans Philippiens, chapitre 4, verset 6? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, avec la louange, avec l'adoration, avec « Merci Seigneur ». Et c'est là, cette action de grâce, pas sans épreuve, ou je dirais en dépit de l'épreuve, mais au beau milieu de l'épreuve, ou peu importe les circonstances, cette action de grâce est la clé qui ouvre la porte à la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est la clé qui ouvre la porte. L'action de grâce, c'est l'expérience de cette paix qui est plus grande que les circonstances, les événements, les relations dans nos vies, qui souvent peuvent nous tirer vers le bas. Donc, on va ouvrir ensemble cette porte. La porte de la louange, de la victoire, de cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, avec trois éléments essentiels pour expérimenter la célébration hâtive de la victoire. Trois éléments essentiels. D'abord, dans les versets 3 à 12, mais on va vraiment regarder le verset 12, la disposition spirituelle vers la célébration hâtive de la victoire. Regardez ce que ça dit au verset 12. Ça, c'est dans la prière de Josaphat. « Oh, notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, sur les ennemis d'Israël? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, pas de force, pas de sagesse, il n'y avait rien. Mais nos yeux sont sur toi. » Ça, c'est la disposition spirituelle qui nous amène à célébrer de façon hâtive la victoire. Mais nos yeux sont sur toi, un peu comme avec le serpent d'airain. Un regard seulement Hein, ils n'avaient pas essayé de soigner leur bobo, ils n'avaient pas essayé d'aller chez l'apothicaire pour trouver un remède. Moïse avait dit, regardez le serpent, on sait que c'est un signe, c'est un symbole de Christ sur la croix. Maudit pour nous, lui qui prend la malédiction du péché sur lui-même. Et de notre côté de la croix, on peut dire que c'est comme dans Hébreux au chapitre 12, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, voyez-vous, l'échange, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Ça veut dire d'accepter, de prendre notre position de mort à la lumière de ce que Christ a fait, d'avoir les regards sur Christ, la disposition spirituelle, c'est dire Christ est mort pour moi, mais la disposition spirituelle qui nous amène à célébrer la victoire à l'avance, c'est de dire je suis mort avec Christ.
Amen.
C'est pas juste qu'il est mort pour moi, c'est quand Christ est mort, je suis mort avec lui. Et on va développer ça ensemble. Parce que lorsque je vois que je suis mort avec Christ, je reconnais la vanité du moi, de ma chair, des efforts, de ma confiance en l'homme, et je valorise, je chéris la grâce de la croix. C'est pour ça que Paul s'exprime dans Galates 6, 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. La gloire des saints de la Nouvelle Alliance, c'est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a libérés de tout ce qui est faux, de tout ce qui est mauvais, de notre fausse identité, de l'esclavage, de la performance, du fardeau, de la culpabilité, de toutes ces choses. C'est notre gloire car elle nous libère de tous nos fardeaux, de tous nos péchés. C'est notre gloire aussi parce qu'elle nous libère pour qu'on puisse se reposer dans notre mort. Dans notre refus et l'inutilité, dans le refus de combattre et l'inutilité de combattre par la chair. La chair ne sert à rien. Et je l'ai cité tantôt, je vais vous citer comme vous, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ce n'est pas des armes qui viennent de la chair. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout autant que s'élèvent contre la connaissance de Dieu, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est ça la disposition spirituelle vers la célébration hâtive de la victoire. Ce n'est pas une disposition qui est selon les raisonnements humains. Ce n'est pas une disposition qui est selon la vertu, la capacité humaine. Mais c'est par Jésus-Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cette disposition des enfants de Dieu, elle est essentielle, elle est salutaire. Lorsque les attaques fusent de toutes parts, ça arrive des fois qu'on se sent submergé. On se sent au-dessus, attaqué au-dessus de nos forces. Mais comme ça a été cité tantôt dans la prière, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. C'est par son esprit qu'on a la victoire. Donc toutes les tentatives, les efforts pour surmonter avec le bras et la sagesse de la chair sont vains et sont voués à l'échec. Ils ont la marque de la mort et de la malédiction sur eux autres. C'est ça, vivre notre mort, c'est dire, je suis mort à mes tentatives, je suis mort à mes bonnes intentions. Oh, que Dieu nous dispose toujours et de plus en plus à avoir cette disposition qui reconnaît notre mort. Qui reconnaît que, je veux dire, si je suis mort avec Christ, qu'est-ce que j'ai à essayer de vouloir m'améliorer, puis de vouloir faire les choses mieux. Non, la force, la clé de la victoire, c'est Christ en moi. Si je n'ai pas la disposition spirituelle qui reconnaît que je suis mort avec Christ, ben je coupe mon accès à la victoire que Dieu m'a acquise. Parce que oui, Dieu a pourvu la victoire. On va voir ça dans le prochain point, là. La victoire est là, la provision est là, tout, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, mais je ne vais pas y accepter si je n'accepte pas, je ne prends pas ma position de mort au péché, de mort à mes ambitions, de mort à tout ce que moi je veux. Et ça, ça m'amène au deuxième point que j'aimerais qu'on regarde ensemble, la provision spirituelle vers la célébration entière. Non seulement la disposition, mais maintenant la provision. Regardez au verset 15. Jacques Aziel dit, « Soyez attentifs, tout Judas et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Dieu mettait devant eux la provision de la foi. Il dit, « Faites-moi confiance, vous n'aurez pas, ça va être moi qui va combattre. Vous avez besoin, vous avez un besoin devant vous, je suis la provision. C'est moi qui est la réponse à votre besoin. » D'ailleurs, savez-vous que c'est le sens fondamental du grand « Je suis », le nom de Dieu. « Je suis votre paix. » Tu as besoin de paix? Je suis ta paix. Tu as besoin de joie? La joie de l'Éternel est ta force. Je suis ta joie. Tu as besoin de sécurité? Peu importe. On dit en anglais « fill in the blank », remplissez l'espace à remplir. Quand on a un besoin, on peut mettre « Dieu, je suis ce besoin. » J'ai peur, je suis ta sécurité. Je suis perdu, je suis le chemin. Peu importe c'est quoi, Dieu est le grand je suis. Il est, lui, la réponse à tout ce dont on peut avoir besoin. Il est l'ultime provision de tout ce dont on a besoin. Et pour eux ici, ils étaient appelés à mettre leur confiance non seulement dans la puissance, mais d'abord dans la personne de Dieu. Comme je l'ai dit au début, hein? Oui, aller vers la victoire, mais la réalité du Dieu de la victoire était ce qui était le plus important. Parce qu'ils ne seraient pas allés en célébrant et en chantant de main, parce qu'il y avait zéro signe de victoire. Il y avait juste des ennemis devant eux. Devant eux, là, humainement parlant, il y avait juste des signes de défaite. Voyons, on est entourés, ils sont plus forts que nous, ils sont plus nombreux que nous. Donc, la personne de Dieu était l'objet de leur attention. C'était ça, la provision. Dieu dit, regardez à moi. Regardez pas à ce qui frappe à l'œil, à ce qui est logique humainement. Parce que c'est moi qui peux vous délivrer de la puissance de la peur. Imaginez-vous la peur qui devait régner dans les rangs. Parce que la peur place la confiance en soi-même, dans ce qu'on voit ici-bas. Mais n'est-ce pas que la parole de Dieu nous dit qu'on regarde non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles? Car les choses visibles sont passagères, mais les visibles, les invisibles sont éternelles. Et remarquez ce que ça nous dit au verset 17. Ça continue avec dans le sens que Dieu va combattre pour eux. Il dit au verset 17, « Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Judas et Jérusalem, ne craignez point, ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre. Et l'Éternel sera avec vous. » Ça, c'est intéressant, parce que quand on compare les Écritures avec les Écritures, ça nous fait penser un peu à ce qui est arrivé dans le livre d'Exode, lors de la sortie d'Égypte. Écoutez ce que la parole nous dit d'Exode 14, 13 et 14. « Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. » Voyez-vous, il y a des parallèles avec ce qu'on voit. « Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Il y a vraiment des parallèles entre les deux passages ici. Sauf que Dieu leur dit « Restez en place dans Exode », puis ici il dit « Sortez à leur rencontre. » On voit un parallèle entre les deux, mais il y a quand même une différence. Les deux sont appelés à rester en place, à regarder la délivrance de l'Éternel, sauf que dans Exode, c'est les Égyptiens qui les poussent vers l'appropriation de la victoire. Ils étaient là, ils étaient pris. Puis là, les Égyptiens étaient l'élément qui les poussait. Il y avait juste la mer comme option. C'était ça, la victoire. C'était Dieu qui allait ouvrir la mer, n'est-ce pas? C'était l'intervention divine, extraordinaire, impossible à l'humain. C'est ce que Dieu allait faire. Donc, les Égyptiens les poussaient vers l'appropriation de la victoire. Il fallait qu'ils restent en place, qu'ils n'essayent pas de s'enfuir. Tandis qu'ici, dans 2 Chroniques, les Ammonites, les Moabites et les habitants de Séir, c'est eux qui viennent à eux, comme... donc, ils viennent entourer Jérusalem, ils viennent à leur rencontre, mais c'est Dieu qui pousse son peuple à aller les voir. Il dit, allez à leur rencontre, puis vous allez vous approprier la victoire. Maintenant, quand on voit ça à la lumière de notre identité en Jésus-Christ, de la nouvelle alliance, du fait que nous avons toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, est-ce qu'on a besoin d'avoir quelque chose de plus? Non, on a déjà complètement tout. Et donc, la provision spirituelle, c'est Dieu qui nous pousse à lui. Dieu est la provision. Dieu est celui qui se pourvoit lui-même. Quand ça nous dit qu'aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine, mais avec la tentation, Dieu va pourvoir au moyen d'en sortir. C'est lui la provision. Dieu est le moyen de se sortir de ce qui est devant nous. Et voici où est-ce que ça devient difficile. Puis là, je vous demande, tournez avec moi parce que les passages puissants, je veux que vous les lisiez avec vos yeux, direct dans vos Bibles. Gardez votre place dans la chronique, mais venez avec moi dans Jacques au chapitre 1. Jacques au chapitre 1. Dans Jacques au chapitre 1. Parce que là, on va parler de quelque chose de tellement important. Notre frère priait tantôt, ça m'a touché. Seigneur, montre-moi ce que ça veut dire de vivre ma mort. C'est complètement contradictoire. Ça n'a pas de logique humaine. Comment un mort peut vivre? Il ne faut pas que ce soit lui qui vive. Parce que si tu es mort, il faut que ce soit un autre qui vive. Ben, c'est ça que la Bible dit. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Mais ce que j'aimerais qu'on voit, comment Dieu nous amène à voir ça, à vivre ça? Avec l'épreuve. Savez-vous quoi? Si on avait le cœur tendre comme Adam et Ève avant la chute, là, on n'aurait pas besoin de souffrance, on n'aurait pas besoin d'épreuve. Ça serait... Tout serait tellement facile et tout ça. Mais à cause de la chute, à cause de toutes les complications que ça a amené, Dieu, dans sa bonté, ne nous laisse pas nous égarer, nous endurcir, nous envoie des épreuves. Puis ici, qu'est-ce que ça dit? Dans Jacques, au chapitre 1, au verset 2, « Mes frères et sœurs, regardez comme un sujet de joie complète. » Pas un hockey sur le bord, là, OK, Seigneur, là, je dis merci, puis ça sort sur le bout des lèvres, juste pour dire. Non, non. « Regardez comme un sujet de joie complète. » Ça, c'est comme l'embrasse de tout ton être, l'épreuve. Wow! Puis pas juste dire, OK, Seigneur, je l'accepte avec joie. Vous vous rappelez la semaine passée, non, l'autre d'avant, parce que la semaine passée, c'était le Barra Singer. Il dit, comment la chair, comment elle pense, comment elle réagit à la souffrance de notre chair? Elle veut s'enfuir, elle veut partir à la course. Mais la disposition spirituelle de quelqu'un qui est mort, il accepte la souffrance, la douleur, comme venant de Dieu, parce que ça fait partie de ses plans bienfaisants. Le monde ne pense pas de même, la chair ne pense pas de même. C'est l'Esprit de Dieu dans ses enfants qui nous dispose comme ça et qui nous amène à accepter cette provision parce que l'épreuve, c'est le moyen par lequel Dieu nous donne sa provision. C'est pour ça qu'on rend grâce à Dieu. C'est pas parce que, Seigneur, je suis content d'avoir mal, merci pour la douleur. Non, c'est pas ça. C'est que on voit l'épreuve comme un sujet de joie complète parce que on voit le Dieu qui est au-delà de cette souffrance, qui est au-delà de cette douleur, puis qui va lui-même pourvoir à la guérison, à la délivrance, au réconfort, à ce que tout lui peut nous donner. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant, il y a quelque chose qu'on sait, qui nous rassure, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Ceux qui sont ici depuis un bon bout de temps, vous savez, j'ai déjà employé l'expression « la mort, le tombeau, la résurrection ». Ça vient pas de moi, ça vient d'un défunt, Steve Crinton, qui parlait de ces vérités-là, puis lui appelait ça, c'est un anglophone, il disait DBR, Death, Burial, Resurrection. Notre mort, notre ensevelissement, puis la résurrection. Et là, je vais amener un point important, parce que ça dit ici, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Qu'est-ce qui fait que je vais me réjouir dans l'épreuve? C'est que je sais que Dieu est la provision. Mais qu'est-ce qui fait que je vais avoir tellement de misère à endurer cette épreuve, puis que j'ai besoin de me faire dire ce qui est écrit dans Jacques 1? C'est parce que lorsque je suis dans l'attente, lorsque je suis dans le tombeau, lorsque j'accepte ma mort, mais que je l'accepte, puis que là c'est long, puis que la vie, elle prend pas le dessus trop vite, puis que je ressens toute la douleur, l'odeur nauséabonde du tombeau, de l'attente, c'est là que c'est tough. C'est là qu'on est tenté de flancher. Parce qu'en tant que chrétien, par l'Esprit de Dieu, on accepte notre mort. On sait que, qui ici qui veut faire sa volonté, là? Seigneur, que ma volonté se fasse et non la tienne. Non, quand on est un enfant de Dieu, là, notre chair, elle veut ça. Mais nous, là, le vrai nous, là, régénéré en Jésus-Christ, là, on veut pas ça. On veut pas notre volonté. En fait, c'est ce qui nous attriste tellement de nous-mêmes, puis aussi des autres. C'est cette volonté persistante à vouloir faire notre volonté. Mais accepter et vivre notre mort, voici ce que ça veut dire. C'est dans le tombeau, c'est l'endroit où on expérimente notre mort, OK? Parce que la Bible, elle dit, là, vous avez été crucifié avec Christ, OK? Puis, en fait, si je vous lis Romains 6, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Quand Dieu, par notre mort avec Christ, opère cette délivrance pour plus qu'on soit esclaves du péché, qu'est-ce qui arrive? C'est que Dieu nous place dans l'attente. Il dit, accepte cette mort. Essaye pas de t'en délivrer toi-même. Jusqu'à ce que moi j'intervienne. Beaucoup de gens disent que prêcher notre union avec Christ, prêcher les vérités de Romains 6, c'est prêcher la passivité. D'une façon, c'est vrai, d'une façon, c'est faux. C'est vrai dans le sens que c'est, quand je suis dans le tombeau, je veux que ma chair elle soit passive. Je ne veux pas intervenir. Je veux persister dans l'attente de l'Éternel. Mais c'est une foi très active. C'est une foi qui dit, je refuse de m'appuyer sur le bras de ma chair. Je refuse de m'appuyer sur la sagesse de ma chair. Qui a toutes les bonnes raisons pour me faire sortir de cette souffrance intenable. Et ça, mes amis, il n'y a pas d'autre voie. La voie vers le triomphe de sa vie, c'est d'attendre l'intervention de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. C'est lui qui va donner vie. C'est juste lui qui donne vie. Notre rôle, c'est d'accepter la mort, c'est d'accepter d'y passer, puis des fois d'y rester, dans le tombeau. Jésus ne s'est pas ressuscité des morts lui-même. Il a été ressuscité par l'Esprit de Dieu. Il était dans le tombeau 3 jours, puis Dieu l'a ramené à la vie. Ben, c'est ça aussi pour nous autres. On ne peut pas se ramener à la vie. Puis notre problème, c'est quand on essaye, c'est pas la vie que ça amène, c'est juste plus de morts, c'est juste plus de problèmes. Donc, notre part pour accéder à la provision spirituelle de Dieu, c'est pas d'essayer, écoutez, ça va un peu avec la contradiction tantôt, enseigne-moi à ce que ça veut dire de vivre étant mort, ben, ma part pour accéder à la provision de Dieu, ma part, c'est de pas essayer d'y accéder. C'est de m'attendre que Dieu va me le donner. J'ai-tu plus confiance que Dieu? C'est là que ça devient dur. Dieu, je m'attends à toi, mais on a le goût d'essayer de l'apprendre. Dieu dit non, c'est moi qui vais te le donner. On ne peut pas se donner la vie nous-mêmes. C'est Dieu qui faut nous la donner. Notre part, c'est de persévérer dans l'attente, de croire que Dieu va pourvoir. C'est dur de croire que Dieu va pourvoir quand on a d'autres moyens, les moyens du bord. Mais c'est ce que c'est des moyens juste du bord. C'est pas la provision de Dieu. La provision de Dieu, c'est juste Dieu qui peut la donner. La chair, c'est les moyens du bord. Et c'est ce qui nous met dans le trouble. C'est ce qui fait qu'on peut virer en rond. Dieu va nous donner accès à sa vie, à sa façon, en son temps, selon sa sagesse. Y a-t-il pas mal de nous autres là-dedans? Non, il n'y a pas de nous autres. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Toutes ces facettes lui appartiennent. La façon, le temps, la sagesse. C'est lui qui fait ça. C'est lui qui met en branle les choses. C'est ça la provision de Dieu. C'est surnaturel. C'est Dieu qui s'invite dans le tombeau puis qui fait triompher sa vie. Intervient, délivre. Au beau milieu du tombeau, au beau milieu de la mort, il fait triompher sa vie d'une façon unique, d'une façon inexplicable. Puis voici comment se l'approprier, c'est le dernier point. Non seulement la disposition spirituelle, la provision spirituelle, mais on conclut avec l'appropriation spirituelle vers la célébration hâtive de la victoire. Regardez au verset... au verset 18, Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Dans Hébreux chapitre 13, verset 15, ça nous dit « Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Un sacrifice de louange. Pourquoi c'est un sacrifice? Parce qu'on doit payer le prix de l'attente, le prix d'accepter notre mort, d'accepter de rien faire. C'est un sacrifice. Puis juste de dire, merci Seigneur, c'est ta voix. De vivre notre mort, c'est-à-dire de vivre la communion de ses souffrances, de son opprobre, celle de ne pas être compris, de même parfois être moqué par les incrédules, les orgueilleux. Jésus, c'était sa part, être un homme de douleur, accoutumé à la souffrance, il n'était pas compris. Mais lorsqu'on accepte les voies de Dieu, lorsqu'on accepte par la foi et qu'on s'approprie la victoire, là, on a de quoi chanter, puis on a de quoi adorer. Comme Paul et Silas en prison. Est-ce qu'il était délivré? Non, il était en prison. Mais déjà, il chantait. C'est exactement comme ce qu'on voit ici dans notre texte de Chronique. Puis d'ailleurs, ces deux hommes l'avaient lu, là, deux Chroniques, c'était deux Juifs, ils connaissaient ça. Peut-être même qu'ils s'étaient inspirés en chantant, justement, de ce passage-là. Il avançait dans la victoire qu'il avait en louant le Seigneur au sein de la prison. Puis quelle victoire Dieu leur a donné, non seulement pour eux autres à être libérés, mais on sait que ça a donné le salut, non seulement du geôlier et sa famille, mais de beaucoup de personnes. Quand on s'attend à Dieu, il va faire tellement plus, puis tellement au-delà. N'est-ce pas ce que ça dit? Or, à celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et même pensons. À lui soit la gloire. Est-ce que quand on lit Acte 16, on dit hey, « Gloire à Paul, gloire à Silas, ils ont donc bien chanté. » Non, on dit « Gloire à Dieu. » Puis on est encouragé par Paul et Silas qui chantaient alors qu'ils auraient dû juste pleurer puis s'apitoyer. Mais c'est à Dieu qu'on rend gloire parce qu'on voit le Dieu qui a délivré, le Dieu qui a vraiment fait des choses extraordinaires. Et je l'ai souligné, dans les versets 21 et 22, ça nous dit qu'il était d'accord avec le peuple et qu'au moment où ils ont commencé à chanter les louanges, Dieu est intervenu. Il y avait un accord, puis au moment où est-ce qu'ils ont célébré, Dieu a amené la délivrance. Je vais faire une application tellement importante ici pour notre église. Vous savez, on met en pratique Matthieu 18, 19. Si deux ou trois d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, c'est ce qu'on fait avec la symphonie de la prière. Et je crois que lorsque le peuple de Dieu se met d'accord pour célébrer la victoire par la foi, l'anticipation de cette victoire que nous avons, ben, elle va se manifester. Je pense que Dieu ici confirme quelque chose qu'on fait pour s'approprier la victoire. On se met d'un même accord, ensemble, à la lumière de la parole de Dieu, dans la prière devant Dieu, dans l'adoration, pour célébrer cette victoire que des fois on n'a pas encore, mais que déjà on célèbre. Parce qu'on sait, on connaît le Dieu de la victoire. La réalité du Dieu de la victoire est plus grande que même l'expérience de la victoire qu'on n'a pas encore toujours. On célèbre la victoire dans la grâce qui est à venir. On sait que Dieu, ses bontés se renouvellent chaque matin, que sa grâce va encore se manifester. C'est notre espérance. L'espérance, c'est la vive attente, la ferme attente que Dieu va délivrer, que Dieu va intervenir, que Dieu n'a pas fini. C'est l'espérance biblique, c'est déjà croire à ce que Dieu ne nous a pas encore donné. Le croire comme si c'était déjà une réalité. Et selon le verset 22, au moment précis où est-ce que ils ont adoré ensemble comme ça, tous d'un même accord, la grâce de Dieu s'est manifestée. Et la grâce de Dieu, elle est suffisante. Et je dirais que la louange, c'est la manifestation première de la foi, de la confiance en Dieu pour sa délivrance. J'ai cité tantôt Philippiens 4, 6. On a toutes sortes de choses qui peuvent nous inquiéter. Puis on a toutes sortes de besoins. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins. Puis on fait ça. On prie, on supplie le Seigneur, mais l'action de grâce, quand on arrive à ce point d'action de grâce, c'est là, au moment, c'est là. Parce que Dieu entend nos prières, puis il voit qu'on supplie, qu'on a le cœur brisé. Mais au moment où est-ce que on lui dit merci Seigneur, qu'on le loue, qu'on lui rend grâce, la paix de Dieu, elle garde nos cœurs. La paix de Dieu, elle va faire de quoi d'extraordinaire dans nos vies puis ensemble. Parce que Dieu rémunère ceux qu'il cherche. Et d'ailleurs, on voit ça. On le voit au niveau physique ici. Josaphat, verset 25, et le peuple à l'air et prendant leur dépouille. Ils trouvèrent, bon, finalement, ils ont trouvé, ils mirent 3 jours au pillage. Il y en avait tellement, ça leur a pris 3 jours. Dieu a rémunéré leur foi. Dieu, non seulement, il s'est occupé de leurs ennemis, mais il a donné au-delà. Oh, que Dieu nous ouvre les yeux pour nous faire jouir des richesses merveilleuses de Christ. On a tout pleinement lu, toutes les bénédictions spirituelles. On n'a pas à vivre comme des gens qui sont vaincus, qui sont abattus parce qu'on connaît le Dieu de la victoire. Et je conclue avec cette pensée-là. Dans le verset 26, le quatrième jour, ils rassemblèrent dans la vallée de Béraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Béraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Béraka, ça veut dire bénédiction, louange. Avez-vous remarqué que dans notre passage, là, la bénédiction, la louange, l'adoration, c'est vraiment la clé. C'est tellement fort. C'était l'arme avec laquelle ils ont combattu. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ils n'ont pas sorti une épée, il n'y avait pas une fronde où est-ce qu'ils ont tiré rien. Leur arme, elle était puissante par la vertu de Dieu. C'était de la louange, l'adoration à Dieu. Écoutez ce que ça dit dans le psaume 40. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Ça, c'est les enfants de Dieu. Une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Il y a une puissance spirituelle, libératrice, incroyable dans la louange et l'action de grâce. C'est tellement pas à négliger. Je pense qu'on a une réponse là-dessus. C'est quoi ça veut dire d'accepter notre mort, de vivre notre mort? C'est quand tu arrêtes d'essayer. Ça, c'est un bon point de départ. Mais de l'accepter, c'est de dire, Seigneur, merci. Je te rends grâce que c'est le chemin que tu as pour moi. Tu me fais le don de la souffrance. Avez-vous déjà pensé à ça, le don de la souffrance? C'est pas parce qu'on est majestueux puis qu'on dit, hey, Dieu, des fois on a besoin de repos, puis pff, OK, je veux dire, puis Dieu sait, Dieu nous donne des temps sur le haut des montagnes, des fois des temps dans la vallée. Mais quand c'est le temps de la vallée, le chrétien qui marche par le Saint-Esprit est dans la vallée de Béraka, la vallée de la louange, de la bénédiction. C'est pas la vallée où est-ce qu'il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas rien. Il loue le Seigneur même dans cette vallée-là. Écoutez ce que ça dit dans le psaume 83 par rapport aux ennemis de l'Éternel, parce qu'il y a quelque chose là-dessus. Ça dit « Couvre leur face d'ennemis afin qu'ils te cherchent, ô Éternel. » Même ceux qui nous font du mal, on ne les voit pas de la même manière lorsqu'on voit les choses à la lumière de la croix de Christ. On voit la puissance évangélistique de ce qui nous arrive. On voit que Dieu permet les choses non seulement pour notre bien, mais aussi pour celui des autres autour de nous, incluant ceux qui ne le connaissent pas. N'est-ce pas ce qu'on prie quand les gens ont des malheurs et des choses difficiles? On dit, Dieu, qui puisse te connaître, te rencontrer là-dedans. Parce que Dieu convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Et souvent, il sert de la souffrance. Dieu sauve le malheureux dans sa misère et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Et donc, est-ce que ce matin, tu es saisi comme ont été saisis ceux dans le livre des Actes par la parole d'Éternel? Après avoir entendu ce discours, le premier discours de Pierre, le jour de la Pentecôte, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Pierre leur répondit, « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Dieu nous appelle à répondre à ce qu'il nous a dit aujourd'hui. Peut-être que Dieu veut t'appeler à répondre pour la foi salvatrice. Il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas Jésus comme son sauveur. Tout commence avec la croix. Considérez qu'il est mort pour vous. Et Jésus a dit, je ne mettrai point celui dehors celui qui vient à moi. C'est aussi simple que ça. Vous voyez votre besoin? Allez à celui qui est la provision, la réponse à votre besoin le plus important, le salut de votre âme. Vous n'avez pas à faire ce que Jésus a déjà fait pour vous. Vous n'avez pas à gagner votre ciel. Jésus a ouvert la porte du ciel pour vous. Il faut accepter. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Donc, répondez à l'appel de la croix. Et pour les enfants de Dieu, beaucoup de choses qu'on a vues ici, puis je vais vraiment conclure avec cette idée-là. Regardez le verset 35. Josaphat, un bon roi, mais on a quelque chose, une pointe de tristesse ici au verset 35. Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël, Akazia, dont la conduite était impie. Le compromis. Est-ce que le compromis avec ta chair, les voies de ta chair, les tendances de ta chair, court-circuite le courant de la grâce de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu sors prématurément du tombeau? Lorsque le temps d'attente entre accepter ta mort et la délivrance de la vie de Dieu est trop long pour toi, voire insupportable, Dieu ne te demande pas de combattre ces tendances-là. C'est la bonne nouvelle. Dieu ne dit pas « Améliore ta chair, là. Vas-y, là, essaye plus fort. » Non, Dieu te demande simplement de te reposer dans cette position-là d'attente. Accepte ta mort. Accepte que tu ne peux rien faire. Accepte que la chair ne sert à rien. Dieu va donner la délivrance. Peut-être pas quand tu veux, peut-être pas comment tu veux, mais Dieu va le faire. Fais-tu confiance à Dieu plus que à toi, tes raisonnements? C'est ça, accepter notre mort. C'est ça, vivre à la lumière du fait qu'on est mort. C'est ça, attendre en silence le secours de l'Éternel. Donc, on puisse répondre aujourd'hui à l'appel que Dieu nous adresse de l'attendre, de rester. Rester dans cette position, dans le tombeau, pour qu'on voit sa vie. Puis, pas en misérable, puis qu'on a de la misère, dans la louange, dans l'action de grâce. Dire, merci Seigneur, c'est le don qui vient de ta main, cette souffrance, cette chose que je ne comprends pas, cette chose que j'ai de la misère à accepter, c'est toi qui me le donnes. Puis à cause de ça, c'est bon, puis je m'en réjouis, parce que tu fais quelque chose de bon, parce que tu es bon. Toute grâce excellente, tout don parfait, descendre du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Merci Seigneur, tu es le Dieu qui ne change pas. Le même Dieu qu'on vient de voir dans 2 Chroniques, c'est le même qu'on adore ce matin. Et Seigneur, merci pour ça. C'est sécurisant. Ah, tu as un plan qui s'est développé à travers les époques, et ce qu'on a vu ce matin, c'était avant la croix, et on est après la croix. Mais Seigneur, tu es le même. Tu ne changes pas, tu es toujours bon. Tu es toujours digne de confiance. Tu es vivant, tu es vrai. Il n'y a point de mensonge en toi. Que tout homme soit connu pour menteur et Dieu seul pour vrai. On s'approche de toi, Seigneur, avec action de grâce, te remerciant. du privilège de te connaître et du fait qu'on peut se reposer en toi parce que tu es vivant, tu vas toi-même, Seigneur, opérer la délivrance. C'est pas notre rôle. On n'est pas là pour se délivrer nous-mêmes. Et notre chair ne peut certainement pas y aider. En fait, elle ne peut que nuire. Oh, Seigneur, on croit. Viens au secours de notre incrédulité. On veut, Seigneur, persévérer dans la foi, dans l'attente de ta délivrance et déjà célébrer ta victoire parce qu'on te connaît, toi, le Dieu de la victoire. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez